Continent Science, Stéphane Delisgorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de toutes les émissions scientifiques, les rendez-vous scientifiques sur France Culture, tous les jours, bien sûr, à 14h, en direct du studio numéro 1, en direct de la Maison Ronde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, un très, très, très grand mathématicien, puisqu'on peut parler de lui comme un Euclide du XXe siècle, ainsi vont en tout cas répétant certains mathématiciens. Il s'agit d'Andrei Kolmogorov. Et en particulier sur un travail qu'il a fait sur la turbulence. Turbulence qui nécessite en particulier de très belles équations, mais très cruelles, si on peut dire. Et tout ça donc en compagnie d'Isabelle Gallagher, qui va faire mercredi prochain, dans le cadre de notre partenariat d'ailleurs avec la Société Mathématique de France et la BNF, donc une conférence sur un article très précis de Andrei Kolmogorov. Et puis Martin Andler, notre accompagnateur dans cette aventure de partenariat avec les mathématiques. Mais tout de suite, bien sûr, pour ne pas troubler nos habitudes, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens aujourd'hui les scarabées. Oui, les scarabées dans la séduction qui existe dans le règne animal. C'est souvent au mâle de prendre les devants, certains utilisant leurs traits sexuels comme des ornements. On appelle ça des traits sexuels en théorie de l'évolution. Ça peut être donc des ornements. Les plumes, très élaborées chez certains oiseaux, par exemple, sont des ornements. Pensez aux paons. D'autres, comme de véritables armes pour combattre les rivaux et gagner, bien sûr. Les faveurs de la femelle, c'est les bois des cerfs, par exemple. Et dans tout cas, dans le cas des scarabées rhinocéros, c'est le cas des cornes. Ces derniers faisant preuve d'une grande diversité avec des cornes en forme de fourche, pince ou épée. On pourrait croire que cette variété a été façonnée par la multitude des styles de combat. On s'était borné à l'observation de corrélation entre tactique et appendice guerrier. Mais pour la première fois, des chercheurs apportent des preuves directes de ce lien en utilisant des méthodes biomécaniques de cornes de trois espèces de scarabées rhinocéros. Voici les différentes tactiques de lutte auxquelles s'adonnent ces coléoptères guerriers. Pour chacun, le but est de placer sa corne sous l'adversaire et de l'éjecter du support sur lequel il se trouve, soit un tronc d'arbre, soit une branche. Mais les manœuvres précises pour y parvenir diffèrent d'une espèce à l'autre. Les scarabées rhinocéros japonais se servent de leurs cornes céphaliques à la base triangulaire et à la pointe fourchue pour soulever et faire pivoter leurs compétiteurs avant de l'éjecter. Les dynastes Hercule, eux, utilisent leurs longues cornes céphaliques à la base elliptique, de concert avec leurs cornes thoraciques cette fois, pour former une pince, tout simplement presser donc et expulser leur adversaire. Enfin, les mâles de l'espèce Golapha porteri manient leurs cornes céphaliques à la base circulaire et au prolongement long et fin comme une épée, pour soulever et déséquilibrer leur rival. Les cornes des trois espèces de scarabées sont soumises à des forces verticales, puisque les coléoptères placent leur arme sous leur adversaire pour l'éjecter. Mais en fonction des espèces, les appendices peuvent aussi subir des forces tournantes, des forces latérales, en faisant pivoter l'ennemi ou en le déséquilibrant. Les chercheurs, poussés par une immense curiosité, ont donc appliqué sur les différents modèles de cornes des charges correspondant au style de combat typique et atypique de chacune des espèces. Résultat, Les cornes sont plus résistantes et plus rigides quand elles subissent des forces en rapport avec leur mouvement habituel, par exemple celle du scarabée rhinocéros est rigide et résistante si on lui applique une force verticale ou tournante, mais elle a plus de chances de se casser si la force appliquée est latérale. Illustration d'un lien essentiel entre la forme de l'arme et de sa fonction. Les règles de base de la physique ont montré que ces cornes sont donc sélectionnées pour combattre vraiment. L'exigence des femelles, cette fois, avait conduit à une diversification des ornements chez les mâles. Mais voilà une belle preuve que la nécessité d'améliorer des techniques de combat a, elle, tout simplement contribué à façonner la forme des armes au profit des femelles. Bonjour Isabelle Gallagher.
Bonjour.
Bonjour Martin Andler.
Bonjour.
Rien de grave depuis notre dernier rendez-vous, Martin.
Non.
Bon, les mathématiques continuent leur chemin.
Nous entrons dans un domaine de turbulence. Nous sommes dans un domaine de turbulence. D'ailleurs, je crois que dans cette maison même.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait trouver le nombre de Reynolds, tiens, qui pourrait nous l'expliquer? Allez, on va commencer. Alors, évidemment, question de principe, question habituelle. Je suppose que vous n'avez pas tiré ça d'un chapeau, quoique, après tout. Isabelle Gallagher, quelle est votre spécialité?
Alors moi je suis mathématicienne et je travaille en analyse des équations en dérivées partielles.
Partielles, d'accord.
Donc c'est un mot un peu compliqué, mais qui désigne des équations qui sont censées représenter ce qui se passe un petit peu dans la nature, que ce soit des fluides, des gaz ou toute autre chose.
On a des solutions souvent pour les... ou pas souvent?
Pas
pour
souvent,
les...
non, hein, non.
C'est
non,
ça, non. C'est ça l'intérêt d'ailleurs.
Hein. Ouais, notre métier c'est plutôt de montrer qu'il y a des solutions. Les calculer c'est une autre affaire.
Oui, ouais. Elles sont peut-être approximatives ou pas? Non.
Parfois, dans le meilleur des cas. Parfois, on ne sait même pas s'il y en a.
Oui. Ouais. C'est un bel objet. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie des mathématiques? Bon, c'est des mathématiques qu'on dit non linéaires. On peut peut-être dire un mot là-dessus, Martin Andler.
Les équations en dérivées partielles se divisent en deux grandes catégories. Les équations linéaires qui sont en gros considérées comme plus simples et qui ont été beaucoup étudiées et beaucoup de choses sont comprises depuis Fourier, depuis deux siècles. Et puis les équations dites non linéaires qui sont plus compliquées, pour lesquelles des outils généraux ne semblent pas s'appliquer et dans lesquelles il y a énormément de choses à faire. Et heureusement ou malheureusement, beaucoup des équations qui gouvernent notre monde réel sont non linéaires. Donc ça donne beaucoup de boulot aux mathématiciens comme Isabelle.
Oui, et en particulier sur des objets aussi fluctuants, si je puis dire, mais on rentrera dans le détail de ce type de fluctuances que sont les turbulences. La matière turbulente qui se fractionne en tourbillons, l'objet de la chose. Alors j'avais commencé et puis je me suis interrompu. Pourquoi avez-vous choisi cet article de Kolmogorov? On le connaît, on va le dire tout de suite, pour avoir axiomatisé le calcul des probabilités, ça c'est un coup de génie, enfin c'est le grand coup de maître de l'ordre. On sait que quand on axiomatise une partie des mathématiques, alors là on a tout mis en ordre, on est au clair, on sait ce qu'on dit, on sait comment ça se passe. Et donc on a la série limitée d'atomes qui décrivent le champ et hop, on y va. Et lui il a fait ça, concernant le calcul des probabilités, mais vous partagez l'idée que c'est quand même peut-être l'un des plus grands mathématiciens du XXe. Pourquoi avez-vous choisi cet article?
Alors c'est certainement un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Donc en fait, je crois qu'une des raisons pour laquelle on a décidé de parler de Kolmogorov cette année, c'est que ça fait 10 ans que ce cycle de conférences a lieu à la BNF et qu'on n'a pas encore vu, je crois, de mathématicien russe.
Non, effectivement.
Je crois, oui. Et Kolmogorov, c'est vraiment un des plus grands, russes et même mondiaux. Donc c'était naturel de parler de Kolmogorov à un moment, il était temps d'en parler. Et donc son spectre est tellement large que je pense que beaucoup de sujets auraient pu être abordés au sujet de Kolmogorov.
Oui. Les probabilités.
Par exemple, les probabilités. Alors moi, comme je travaille plutôt en équations en dérivées partielles et qu'il a eu un apport fondamental dans ce domaine-là, dans le domaine de la turbulence, le choix était tout à fait naturel.
Et bienvenue. Bon, alors Andrei Kolmogorov est né le 25 avril 1903 à Tambov, c'est à 500 km au sud-est de Moscou, et sa mère est décédée à sa naissance.
Oui, absolument.
Donc ensuite, Isabelle Gallagher, il faut peut-être préciser que son père, agronome statisticien, a été ministre, c'est bien ça?
Oui, il était ministre de l'agriculture, hein, à peu près à la même époque, je crois, et il a abandonné en fait son fils, je crois, immédiatement. Oui. Donc son fils Andrei Kolmogorov a pris le nom de son grand-père, de sa mère.
Qui était noble, hein, d'ailleurs, il faut préciser.
Oui, tout à fait, oui. Et donc il a été élevé par ses tantes, qui étaient les sœurs de sa mère. Et il a eu une enfance très heureuse, si j'ai bien lu.
Oui.
Il était très très bon élève à l'école, voilà, donc une enfance assez paisible, même si évidemment la révolution russe est arrivée par là. Il a interrompu ses études quelque temps pour fabriquer un chemin de fer, pour être conducteur de train.
Oui.
Mais finalement, à 17 ans, il est rentré à l'université et sa carrière académique a commencé très rapidement.
Oui, il faut préciser d'ailleurs que certaines des définitions de biographie de sa vie sur Internet disent qu'il a été franchement conducteur de train.
Oui. Enfin, rentrer à l'université en 1920 à Moscou, c'est pas, pour ceux d'entre nous qui nous intéressons à l'histoire, c'est un petit peu, ça fait rêver en un certain sens.
Oui, et d'ailleurs, quand il rentre, il n'est pas franchement intéressé par les mathématiques. Hein. Toute sa vie va être très intéressé en particulier par l'histoire russe. C'est bien ça.
Oui, tout à fait, de linguistique également.
Oui, linguistique.
Et il a commencé en faisant de l'histoire.
Hein, oui.
Et en fait, je crois que l'histoire veut que. Enfin, les gens veulent qu'il aurait écrit un mémoire en histoire, qu'il aurait présenté à son enseignant, qui lui aurait dit ce que tu présentes est très intéressant, mais tu ne donnes qu'une seule preuve pour cette théorie, alors qu'en histoire, il en faut au moins 10 pour convaincre les gens. Et il aurait dit dans ce cas-là, je vais faire des maths parce qu'au moins une preuve suffit.
D'accord. Et là, on voit évidemment sa précocité extraordinaire dès qu'il se destine vraiment aux maths, puisque à 19 ans, il n'a que 19 ans, et donc tout au début de ses études universitaires, il va assez rapidement, 1922, obtenir un résultat très important, cette fois pour les séries trigonométriques, c'est bien ça?
Voilà, exactement. Il publie, donc c'est 100 ans exactement après l'article de Fourier qui définissait les séries trigonométriques. Il publie un article qui, je crois, a fait sensation à l'époque, il avait 19 ans, où il montre qu'il y a des fonctions qui ne peuvent pas être décomposées en séries de Fourier, ou en tout cas dont les séries de Fourier divergent en presque tout point. Ce qui est un petit peu technique, mais qui a beaucoup impressionné, je crois, les mathématiciens de l'époque.
On peut dire un mot tout de suite, avant d'aborder le contenu de l'émission, que les séries de Fourier, la transformée de Fourier, c'est quelque chose qui peut s'expliciter, en particulier par la musique, qui peut s'expliquer par le son, qui peut. Il y a une utilisation ça a commencé d'ailleurs. On peut peut-être faire ce petit rappel historique. Mmh. C'est toujours intéressant. On peut dire que l'histoire a commencé à Grenoble avec Fourier, puisque il était à ce moment-là ou député, ou enfin il avait un poste officiel, et qui s'est mis à regarder la théorie de la chaleur, puisqu'il a écrit effectivement aussi un livre sur la théorie de la chaleur, en regardant quel était le mouvement de propagation dans une barre métallique. Et là, comment est-ce qu'on pourrait résumer en termes simples ces séries de Fourier? D'abord, elles sont sinus cosinus. Hein,
un développement en série de sinus et cosinus. Ouais. Mais on comprend un peu mieux ça si on connaît un tout petit peu de musique et la vibration d'une corde vibrante comme une corde de guitare. Et on sait que la corde se décompose suivant un mouvement complexe, mais qui se décompose en un seul fuseau, deux fuseaux, trois fuseaux, quatre fuseaux, etc. Et cette décomposition correspond aux différentes harmoniques du son initial. C'est pour ça que l'analyse de Fourier s'appelle aussi analyse harmonique.
Oui.
Décomposition en harmonique. Donc si on part d'un do, par exemple, les harmoniques dans l'ordre, c'est do, sol, do, mi, sol, do, si bémol, do, etc.
Et donc, il a montré que, à un moment, eh bien, ça suivait plus cette périodicité très gentille et que ça se compliquait, c'est ça?
Enfin, il a montré que pour certaines fonctions qui sont
pas
si sympathiques que
ça,
on a beau essayer de la décomposer comme ça en somme de cosinus et de sinus, cette somme qui est infinie, en général, serait divergente. Donc, serait égale, en fait, à plus l'infini en presque tout point.
Alors, ensuite, il s'intéresse, alors c'est très étonnant aussi, à la logique.
Oui. Oui, alors je ne suis pas du tout logicienne, donc je n'en dirai pas beaucoup, mais il a obtenu des résultats, je crois, importants en logique et en complexité en particulier.
Bon. Et il va bénéficier d'un statut très privilégié, on peut dire, hein, parce que on va le considérer, on va le dire immédiatement, vu ses capacités dans la nomenclatura. Du pays des soviets, en tout cas pour ce qui est des sciences.
Hein. Il est chercheur très jeune, professeur, il est académicien à 36 ans,
oui.
Il a monté très vite dans la...
Il y avait trois parties, semble-t-il, pour aller vite, hein, qui étaient en rivalité pour désigné un président de l'Académie des sciences. Et c'est Staline qui a décidé que ce serait eux, parce que eux étaient le groupe, il y avait donc trois groupes, dont un groupe avec Kolmogorov. Et c'est ce groupe avec Kolmogorov qui était vraiment à la pointe des mathématiques. Et il a dit, il faut qu'on prenne les meilleurs.
Tout à fait, oui.
C'est ça?
Ben, oui, on voit, si vous vous souvenez de Vie et Destin de Grossman, on voit qu'il y avait un contact privilégié, un peu bizarre, qui fait un peu froid dans le dos aussi, entre Staline et les scientifiques, clairement. Et donc, il avait une connaissance du milieu scientifique et il était capable d'aller au-delà des réflexes bureaucratiques qu'il inspirait par ailleurs pour reconnaître à certains scientifiques ce statut très particulier qui leur permettait de vivre. Et donc Kolmogorov a vécu quand même entre 1903 et 1987, donc toutes les turbulences, il a survécu, les procès, le goulag, enfin bon, et tout ça, il a vécu ça de manière sans turbulence.
France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges.
Donc une vie sans turbulence, donc une vie laminaire d'une certaine manière. Alors dans ce cas-là, ça veut dire du point de vue biographique qu'il pouvait se déplacer facilement à l'étranger. En particulier, il est venu en France, il a rencontré beaucoup beaucoup de mathématiciens français, Fachem et d'autres. Il pouvait se rendre aussi à des colloques à Marseille. Et surtout aussi, autre avantage, il pouvait publier. Et en particulier, l'article qui vous a mobilisé, Isabel Gerger, a été publié en anglais, c'est bien ça
hein. Alors en russe tout d'abord et traduit plus tard.
Traduit dans une
revue anglaise quelques années plus tard.
Royal Society, je crois bien. Donc, quelqu'un qui peut lire la presse étrangère, c'est un privilège quand on sait que, par exemple, combien étaient martyrisés les généticiens sous les absurdités staliniennes et bureaucratiques des conceptions de la génétique, ainsi de suite, non ?
Tout à fait. Quand on lit sa biographie, on a pas l'impression qu'il y avait eu de difficultés particulières pour les chercheurs à l'époque. Ils voyageaient en France, en Europe, un peu partout.
Oui. Et c'est de ce qui est que, puisque vous parlez de Lysenko, vous faites allusion à Lysenko.
Oui.
Kolmogorov, malgré son statut très protégé et le fait qu'il devait être relativement bien avec Staline, a quand même pris parti contre Lysenko. Donc il a pu profiter en quelque sorte de son statut pour faire preuve d'une indépendance qui était très courageuse et peu coutumière à l'époque.
Oui. Et là, c'était la position scientifique qu'il mobilisait, parce qu'on verra qu'il y a un peu un exemple contraire, on le verra après. Alors, il a évidemment profité des voitures, de la Dacia, qui va avec tous les bien vus du régime. Et là, il a vécu longtemps, tout le temps, avec Alexandrov.
Tout à fait, oui. Il formait un couple de mathématiciens, je pense un des seuls ouvertement couple homosexuel mathématicien russe, absolument.
Alors ça aussi, c'est tout à fait étonnant. Les archives ne sont pas complètement ouvertes, paraît-il, pour savoir exactement comment ça se passait. Mais, en tout cas, c'était déclaré, on parlait de lui dans le milieu mathématicien, à l'extérieur de l'URSS, comme le grand noble homosexuel entouré de ses petits princes, ses petits gitons. Et on voit une photo où il est entouré de jeunes mathématiciens. Tiens, il n'y a que des garçons. Après, on verra qu'il aura une activité très très importante en pédagogie. Mais là, il y a effectivement le prince et sa cour, quoi, de jeunes garçons. Très bon en maths, paraît-il, d'ailleurs. Donc, il va avoir ce statut qui va se perpétuer. Il va pas connaître la perestroïka. Mais à l'inverse, donc, de ce que disait Martin en faisant référence avec la condamnation du grand délirant généticien, qui était pour l'hérédité des caractères acquis, il n'avait pas compris la révolution darwinienne, il était même pré-lamarckien d'une certaine manière. La Pravda du 15 juillet 1974 publie un texte d'Alexandrov aussi signé de Kolmogorov qui s'intitule je crois La trahison ne se pardonne pas et ça concerne Solzhenitsyn. Ouais, pas très joli ça.
Hein. Oui.
Pas très joli, mais quand on voit que à côté de ça, une autre éminence aussi bien fournie en datcha et en voiture, comme Sakharov, va lui tourner kazakh. Tiens, ça tombe bien là. Mm-hmm. Mais voilà, va tourner kazakh selon.
Oui, après des risques. C'est... Bon, oui, il y a des Bon, difficile à dire, oui, en effet, là, c'est clair, oui, à ce moment-là, Kolmogorov n'a pas pris de risque, il a préféré... Oui. Donc c'était à l'époque brejnevienne, là, oui. Et c'est, bon, il s'est mis du côté du manche.
Oui, et là, il va développer à la fin de sa vie, et c'est tout à fait étonnant, et après on va passer évidemment à notre exercice maintenant d'expliciter ces affaires de turbulence, mais en particulier il s'occupe beaucoup de linguistique, en plus des maths,
oui.
Et il s'occupe beaucoup de pédagogie.
Absolument, il a écrit énormément d'articles de vulgarisation ou d'enseignement mathématique.
Oui. Oui. Mais beaucoup, hein, parce qu'il y a une liste que je n'ai pas avec moi.
À partir de 60 ans, je crois qu'il a décidé que finalement le plus important, c'est s'occuper plutôt de la pédagogie que de la recherche en mathématiques.
Oui.
Il a continué bien sûr la recherche, mais il a ouvert une école qui s'appelle l'école numéro 18,
oui.
Qui est l'école de Kolmogorov, dans laquelle, qui fonctionne encore maintenant, hein, on peut s'inscrire, il y a un site web, et qui marche apparemment très bien, où on fait non seulement des mathématiques, mais de la science en général, et du sport, ce qui était quelque chose de très important aussi pour Kolmogorov, de la linguistique, de la littérature, de la musique. C'est...
Alors, vous avez eu l'un commentaire qui est intéressant Martin Andler, dont vous m'avez fait part avant cette ouverture de micro. Donc, c'était d'abord, dans un premier temps, l'initiative de Kolmogorov pour instruire les enfants des apparatchiks.
Alors, ces écoles spéciales ont été créées plutôt pour les enfants des apparatchiks. Et d'après ce que je comprends, les mathématiciens se sont immiscés dans ce dispositif. Les enfants des apparatchiks étaient en général peu intéressés par les études exigeantes en mathématiques. Et du coup, ça s'est transformé en école, disons, élitiste, mais élitiste au sens purement académique du terme. Donc, pour les meilleurs élèves. Effectivement, là, aujourd'hui, quand on voit la qualité et l'ouverture d'esprit des jeunes lycéens russes, encore aujourd'hui, et la quantité de choses qu'ils savent, c'est absolument hallucinant. Enfin, mm-hmm. C'est clair que par rapport à le jeune russe de 16 ou 17 ans, par rapport à son homologue français, il a au moins 2 ou 3 ans d'avance de maturité, d'ouverture mathématique. C'est quelque chose qui est tout à fait frappant. D'un certain point de vue, ce que les soviétiques ont lancé, avec bon, ces écoles spéciales, on peut approuver, désapprouver le principe d'école élitiste, mais un ensemble d'activités qui rentre un peu dans le cadre périscolaire. C'est un modèle pour ce qu'on cherche à faire, nous, et nous en France et dans d'autres pays. C'est sujet d'émulation.
C'est la main à la pâte, mais de façon beaucoup plus élevée, du point de vue du niveau, et avec un taux de réussite, pour simplifier. Quoi. Et ça fonctionne encore, en tout cas.
Ça fonctionne encore, oui.
Là, le flot est resté laminaire. Et non,
le flot est remarquable, évidemment. On sait, c'est pas le sujet, mais on sait en revanche que l'école mathématique russe, la possibilité pour les mathématiciens russes de travailler en Russie est très compliqué à cause de la situation dans ce pays. Là, c'est une autre question.
Et oui, on peut donner d'ailleurs comme exemple, puisque maintenant il est en France, il est à l'IHES, on peut évidemment penser à Gromov. Gromov qui, lui, pour ne pas montrer qu'il était un génie des mathématiques, sous l'Empire soviétique, s'est fait embaucher comme comptable dans une usine où on fabriquait, je ne sais plus, mais pour faire image, des pantoufles. Et en même temps, en douce, le soir, il allait prendre des cours au cirque de Moscou, et très longtemps, dans le joli bois, le bois mari de l'IHS, il tendait une corde, et il faisait des
exercices de funambulisme.
Oui, il jouait le funambule. Donc là, Kolmogorov dans sa gloire, et Gromov planqué pour que surtout on sache pas que c'était un génie géomètre. Donc voilà. Eh bien, on peut peut-être commencer d'abord par le titre. Qu'est-ce qu'il indique, ce titre, Isabelle Gallagher?
Alors, le spectre de la turbulence, c'est ça?
C'est le spectre de la turbulence.
Voilà, alors en fait, c'est un jeu de mots, parce que le spectre, c'est un terme qui a plusieurs sens, évidemment. En mathématiques, c'est un sens très particulier, donc on en parlera peut-être, qui décrit un petit peu, justement, comment une fonction peut se décomposer, disons, en série de cosinus et de sinus, et à quel point cette fonction est oscillante, donc à quel point il y a beaucoup de cosinus et de sinus avec des fréquences très très variées, et le spectre d'une fonction va essentiellement décrire comment les fréquences se répartissent dans une fonction, combien elle oscille. Et Kolmogorov est l'une des personnes qui a vraiment compris comment le spectre se répartissait dans une fonction oscillante comme une fonction comme la vitesse, disons, d'une particule dans un fluide turbulent.
Oui. Et on le voit d'ailleurs, presque à l'œil nu d'ailleurs, quand on regarde, bon, il y a cette fonction périodique, et puis d'un seul coup, elle va avoir, exactement comme dans l'électromagnétisme, on voit longueur d'onde et fréquence, mm-hmm. et d'un seul coup, la fréquence devient très très intense, et là, ça devient extrêmement serré, et ces amples périodes qu'on voyait avant ne sont plus comme ça.
Voilà,
Est-ce que je me trompe pas dans cette façon d'imaginer?
Non, c'est essentiellement ça. En fait, ce qu'il a compris, c'était quelque chose qui était déjà dans l'air du temps depuis les années 20 avec Richardson. C'est que un flot turbulent, c'est un flot avec beaucoup de tourbillons de toutes les tailles. Et ce qu'il a compris, c'est qu'un gros tourbillon, finalement, génère des plus petits tourbillons, de plus en plus petits. Il y a toute une cascade, donc c'est la cascade d'énergie. Et c'est un des apports les plus importants, sûrement, de Kolmogorov dans cette théorie, c'est de comprendre ce phénomène.
Alors, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être que de donner un certain nombre d'informations avant, concernant donc ce phénomène. Et évidemment, si on remonte dans l'histoire, il y a quelqu'un qui est absolument incontournable. Vous avez un nom irlandais.
Bravo, ça vous a pas échappé, hein, bravo.
Voilà. Et je me demande si c'est Stokes qui est irlandais.
Oui, en fait, il y a même plusieurs Stokes, plusieurs irlandais dans cette histoire, parce qu'il y a aussi Reynolds qui est un irlandais.
J'avançais lentement vers lui, et donc, le Reynolds en question, voilà. Connu pour le nombre de Reynolds, était aussi irlandais. Très bien. Bon. Peuple de révoltés
et de mathématiciens,
oui. Entre... Et où a été se réfugier Schrödinger pour écrire Qu'est-ce que la vie? Là encore, c'est assez émouvant. Bon, le pays d'Irlande aussi, de ce point de vue scientifique. Alors, je crois qu'il est absolument nécessaire de donner d'abord un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire, on va commencer par le plus simple, on en prendra d'autres peut-être un peu plus compliqués, mais qu'est-ce qui se passe dans la différence d'un seul coup, il y a une sorte de transition, comme on parle de transition de phase, c'est-à-dire on ouvre un robinet, pas trop, l'écoulement est lent, pas très fort, et donc dans ce cas-là, l'écoulement est laminaire.
Tout à fait. En fait, Reynolds a mis au point une expérience qui vraiment explique très bien cette transition entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. C'est une expérience qu'on peut encore voir d'ailleurs à Manchester. Vous avez un tube...
Horizontal.
Horizontal, exactement, transparent. Mm-hmm. Et on fait rentrer de l'eau par un côté du tube. Et le tube est assez long et on met un colorant pour voir un petit peu comment chaque particule de fluide va s'écouler. Mm-hmm. Et au départ, si on envoie l'eau à une vitesse modérée, on va dire, ben le flot est parfaitement laminaire, ou comme il disait, direct. Et quand la vitesse augmente, donc on ne change pas la caractéristique ni de l'eau ni du tube, il reste identique, mais la vitesse du fluide augmente et tout à coup, on voit apparaître des tourbillons de plus en plus petits et intenses, dans un certain sens. Et donc en faisant cette expérience, il s'est aperçu, Reynolds, qu'il y avait effectivement un nombre qui déterminait, il suffisait de mesurer ce nombre pour savoir si le flot allait être laminaire ou turbulent. Donc on peut définir ce nombre, c'est assez simple. On prend la vitesse d'entrée, disons, du fluide. Mmh. On multiplie ça par une longueur caractéristique de l'expérience. Par exemple, ici, ça sera le diamètre du tube, du tuyau. Et on divise par une quantité qui ne dépend que du fluide, qui est sa viscosité. Donc ça, c'est un nombre qui est caractéristique du fluide. On peut imaginer, par exemple, que l'huile est très visqueuse et l'eau ne l'est moins. D'accord ? Donc ce nombre caractérise en quelle mesure le fluide va résister si on a envie de le mettre en mouvement. Donc on fait ce quotient, ce rapport entre vitesse fois distance divisé par la viscosité, et on appelle ça le nombre de Reynolds. Si ce nombre est petit, le fluide va être laminaire, si ce nombre est grand, il va être turbulent.
C'est un nombre avec des unités, puisqu'on multiplie des choses bizarres entre...
Non, justement, on fait en sorte que ce nombre n'ait pas d'unités, c'est-à-dire que la vitesse c'est des mètres par seconde, la distance c'est des mètres, et il se trouve que la viscosité c'est des mètres carrés par seconde. Donc quand on fait le quotient des deux, on trouve un nombre sans dimension.
C'est ça, donc sans unité, repérable, qui permet de le définir.
Exactement.
Et là, on va pouvoir attacher aux écoulements, et en particulier aux écoulements qui finissent par être donc turbulents, un certain nombre de Reynolds.
Voilà,
c'est bien ça.
Exactement.
Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que je vais vérifier si j'ai bien compris, en tout cas, en lisant votre PowerPoint que vous allez utiliser mercredi prochain à la Bibliothèque de France, que cette turbulence, en tout cas, on peut dire qu'elle est inversement proportionnelle à la viscosité.
Absolument, oui. Si on décide de ne pas changer la vitesse ni le diamètre du tube, et qu'on change la viscosité, effectivement, le Reynolds sera proportionnel à l'inverse de la viscosité.
C'est ça. Donc, si c'est du miel, ça a une viscosité terrible.
Voilà, le Reynolds sera tout petit.
Voilà, le Reynolds sera tout petit. Et si d'un seul coup, on met du Pernod mélangé avec de l'eau, dans ce cas-là, tout change.
On imagine bien que faire tourner un pot de miel, on a difficulté à faire des tourbillons. alors qu'avec votre Pernod, ça marchera très bien.
Oui. On peut dire, Martin Andler, que c'est un des fronts très très importants. Hein. Bon, la turbulence est quelque chose qui n'est pas compris encore. Les spécialistes de la turbulence, qu'elle soit en deux dimensions, voire développée en trois dimensions plutôt, c'est encore un des grands problèmes. D'ailleurs, du point de vue mathématique, ça coûte cher si jamais on trouve la solution, non ?
Pour Navier-Stokes, oui. Navier-Stokes, ça rapporte $1 million. C'est quand même tout à fait frappant. Donc, ces équations étaient définies au 19e siècle.
Oui.
Donc, Stokes, 1870, par là. On est un siècle et demi plus tard et les progrès sur l'équation de Navier-Stokes sont encore extrêmement limités.
C'est ça. Il y a eu
des progrès significatifs en 1933-34 par Leray, un mathématicien français. Depuis, il y a eu quelques articles décisifs. Il y a eu énormément d'activités, ça c'est pas la question. Des progrès vraiment conceptuels importants, d'après ce que je comprends, il y en a
presque
eu très peu.
Oui.
Pierre Hellman, c'est bien la conjecture de Poincaré.
Tout à fait, oui.
Bon, il a eu et la médaille Field, et le prix Clay, donc de $100 000, hein, ou d'$1 million, pardon. Oui. Et il a dit, niet, je ne veux rien, merci, au revoir, il est rentré chez sa maman. Et c'est vraiment ça, il est rentré parce qu'il vit avec sa mère dans un HLM d'une banlieue. Et on parle qu'il serait peut-être au travail sur une conjecture concernant donc Navier-Stokes.
C'est ce qui se dit, oui.
Mais c'est ce qui se dit. Mais alors un mot aussi, parce que qu'est-ce que c'est une conjecture ? Parce qu'il n'y a pas de conjecture. Est-ce que je me lance et vous me rectifiez. Quand on est devant cette équation tellement mystérieuse, tellement complexe, tellement difficile, souvent il y a un premier stade qu'on pourrait appeler un peu pour l'équivalent d'une hypothèse prédictive ou d'une hypothèse formulée vis-à-vis d'un phénomène physique. Mmh. Et la conjecture, c'est, bon, je commence un peu à mettre d'ordre, à mettre de l'ordre, un petit bloc, je vous propose un petit bloc, et là j'ai une conjecture, et au boulot les gars. Est-ce que c'est un peu comme ça ?
Oui, on peut dire par exemple pour Navier-Stokes,
pas
tout à fait.
Pas.
Enfin, disons que c'est plus simple si on a une conjecture, on sait quoi faire. Une conjecture, ça dit voilà la solution au problème que je me pose, je pense que c'est
d'accord.
Ça. Et le mathématicien, s'il a une conjecture en tête, sera peut-être plus facile de la démontrer parce qu'il saura où il va. Sur Navier-Stokes, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de conjecture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. La question sur Navier-Stokes est assez simple. Vous prenez un fluide qui est censé vérifier cette équation, donc n'importe quel fluide essentiellement. Et la question, c'est, étant donné l'état du fluide à un instant donné, je connais cet état, est-ce que je ne suis pas capable de résoudre l'équation partant de cet état et avoir une solution qui existe globalement en temps ? Ou est-ce qu'il y aura des catastrophes qui vont se passer en temps fini ? Et donc la question, c'est est-ce que oui ou non, il y aura une catastrophe en temps fini ? Et à ma connaissance, il n'y a pas de conjecture qui dit oui ou non. Donc c'est un peu, entre autres, la difficulté. C'est que si on avait des raisons numériques ou physiques ou autres pour dire quelle devrait être la solution, peut-être qu'on serait mieux armé pour y répondre.
Martin Andler, un commentaire là-dessus, à ce point ?
Mais ce qu'on peut dire en général, c'est le côté structurant des conjectures et aussi le fait que des mathématiciens soient capables à un moment donné de formuler des conjectures et que ces conjectures se révèlent très souvent être correctes, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Enfin, si vous prenez, la conjecture de Poincaré, très bon exemple.
Bah,
Poincaré écrit, on devrait pouvoir, etc. C'est une phrase comme ça, ceci devrait être vrai. Et puis, un siècle plus tard, oui, c'est vrai.
Bingo.
Bingo.
Oui, d'accord.
Thank you.
suite donc de ce rendez-vous de Continent Science entièrement dévolu à, on peut dire, l'œuvre de Kolmogorov, et plus particulièrement à l'application de donc de ses travaux concernant la turbulence, bien sûr, et qui mobilise le nombre de Reynolds, les équations de Navier-Stokes si difficiles, et qui en tout cas est extraordinairement important. En particulier, on peut donner le nombre de Reynolds pratiquement à tout, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut désigner le nombre de Reynolds d'un avion qui va faire des turbulences quand il s'envole ?
Probablement, je pourrais pas vous le dire.
Mais c'est possible.
Mais c'est possible, évidemment. Oui. Connaissant sa vitesse, et bien sûr, oui.
Oui. Et donc, il y a énormément de domaines. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que il y a des difficultés, puisque de toute façon, d'une certaine manière, il faut avoir le calcul qui permet de connaître la vitesse en tout point du champ de vitesse. C'est bien ça ?
Oui.
Hein ?
Oui.
Pour le dire.
Bon. Enfin, c'est plutôt une vitesse caractéristique, une vitesse moyenne, disons. Du... Oui. C'est pas la peine vraiment de savoir en tout point. Mais...
Oui, d'accord. Mais... en approximatisant, ça permet de faire voler des avions tout à fait correctement et contrôler les turbulences, par exemple, aussi. Hein.
Si on connaît le nombre de Reynolds, on peut savoir effectivement si ça va être turbulent ou pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de savoir si le ciel est turbulent. En le regardant, c'est plus efficace que calculer le nombre de Reynolds à ce niveau-là.
Mais... Oui, mais un fluide aussi fragile, si je puis dire, c'est pas le bon mot, mais que l'air pose aussi la question du déplacement et intéresse la météo et Donc là, en plus, on tombe sur une classe particulière des systèmes dynamiques qui sont sensibles aux conditions initiales. Je le dis d'un mot, hein.
Oui, on peut dire ça comme
c'est,
ça.
C'est le moment, pour revenir à notre affaire, de laminaire, transition et création de turbulences.
C'est bien fait. Ça. Oui, c'est ça. Oui.
Bon, alors, là, à nouveau, je me lance, et c'est une nouvelle manière, hein, que vous allez évidemment immédiatement corriger. Donc, résultat de 1941 de Kolmogorov, dans un écoulement turbulent. On trouve que la variation de la vitesse pendant un certain intervalle de temps, toujours il faut avoir cet intervalle de temps, vous voyez, dans le dispositif du nombre de Reynolds, hein, est proportionnelle, non à la racine carrée, mais à la racine cubique du temps écoulé. C'est bien la racine cubique liée à la conservation de l'énergie qui fut prédite par le dit Andrei Kolmogorov en 1941.
Oui. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette phrase, je pense.
En tout cas, je pense qu'un corriger les plus grosses
auditeur
bêtises.
Déjà peut se poser la question, pourquoi non pas une racine carrée ?
Et oui,
pourquoi
et
une
oui.
racine carrée déjà ? Je
oui.
pense pas que ça saute aux yeux de personne.
Oui, oui.
Il faudrait que ce soit une racine carrée.
Oui.
Et en fait, donc pour reprendre un petit peu au début...
Et puis il faudrait l'avoir écrite en plus, une racine carrée, une racine cubique, il faudrait l'avoir écrite.
Ça veut
écrite
dire quoi d'abord tout ça ?
Mais oui, bien sûr.
Alors déjà, en principe, c'est quoi la vitesse ? La vitesse, c'est une distance divisée par un temps.
Oui.
On est d'accord. Alors l'idée, je crois, fondamentale de Kolmogorov, qui était un peu dans l'air du temps tout de même au même moment, hein, mais qu'il a formalisé, c'est qu'on ne va plus considérer la vitesse simplement comme un objet déterministe qui vérifie une équation et qu'on voudrait analyser, mais comme un objet aléatoire.
Bon. Donc c'est... on paffe les statistiques arrivent.
Voilà.
Et les probas.
Qui d'autre que Kolmogorov pouvait penser à ça, puisque c'est quand même lui qui avait justement axiomatisé tout ça. Et donc... si on imagine une seconde que la vitesse d'une particule de fluide, elle évolue au cours du temps comme ce qu'on appelle un mouvement brownien. Alors ça, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un mouvement brownien, peut-être, mais simplement, à chaque pas de temps, la particule va aller n'importe où, au hasard. Et elle oublie à chaque fois...
C'est complètement erratique.
Exactement, elle oublie à chaque fois ce qu'elle a fait avant et elle part dans une autre direction, ou la même, peu importe.
C'est des graines de pollen infiniment et permanent, de façon permanente, agitées, qui a permis à démontrer la réalité de l'atome dans un article de 1905 par Einstein.
Exactement.
Voilà, bon.
Alors, dans ce cas-là, effectivement, les incréments de vitesse, donc la vitesse à deux pas de temps différents, varient comme une racine carrée du temps. Et donc, on aurait pu croire que pour la vitesse d'un fluide, une particule de fluide, ça pourrait être pareil. À partir du moment où c'est une variable aléatoire, elle varierait comme une racine carrée du temps. Et ce que montre Kolmogorov, c'est que non, effectivement, c'est une racine cubique.
Bien.
Voilà.
Alors, autre phrase, je reviens à nouveau à 1941, toujours le résultat. Il est le premier, M. Kolmogorov, à émettre l'idée que la turbulence engendre une hiérarchie de tourbillons. Une hiérarchie de tourbillons. Bon, la vitesse d'un tourbillon est proportionnelle à la racine cubique de sa taille, donc, comme on l'a vu. Et si un tourbillon va donc deux fois plus vite qu'un autre, il sera huit fois plus grand. Alors le mot grand, vous allez tiquer, donc vous allez en proposer. Et s'il va dix fois plus vite, du fait de la racine cubique, il sera mille fois plus grand. Donc il y a une très grande variabilité de cette grandeur.
Tout
alors,
à fait.
Ce mot, il vous plaît pas, il faudrait enfin, le numériser.
Je ne sais pas très bien ce qu'on appelle grand, effectivement.
Oui, il faudrait parler de dimensionnalité. Bon, alors,
moi, ce que je
comment
comprends
m'en sortir
de,
avec voilà, ma métaphore
de cette cascade, c'est en fait, il y a une métaphore qui vient, d'un poème de Swift, qui avait été repris après par Richardson.
La punaise
était, oui, d'une espèce de... Alors lui, c'était des poètes, après c'était devenu des punaises, ou peut-être plutôt des... On appelle ça là, ce qui est sur les chiens, des puces.
Oui.
Voilà, et ça a été traduit ensuite par des tourbillons. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une puce qui est en train de piquer un chien et une autre puce sur la puce, etc., etc., à toutes les échelles. Et donc, les tourbillons, c'est pareil. Vous avez un gros tourbillon. Et parce que l'équation est non linéaire, donc il y a quand même une équation derrière qui est Navier-Stokes, qui est non linéaire. Alors, il faut faire un tout petit peu de mathématiques. Si vous prenez un cosinus. D'accord, c'est une fonction qui oscille, on l'a vu depuis tout à l'heure.
Ça l'air, oui.
Voilà, et vous imaginez que vous voulez l'élever au carré, donc cosinus fois cosinus. D'accord. Et bien ça, vous pouvez démontrer très facilement que ça s'écrit comme un cosinus de 2 fois x. Donc cosinus x fois cosinus x, c'est exactement 1 demi plus 1 demi de cosinus 2x. Et ça qui est important, c'est que vous avez une fonction qui est un cosinus, qui oscille à la fréquence 1, et tout à coup, vous l'élevez au carré et vous trouvez la fréquence 2. Et comme Navier-Stokes est non linéaire, si vous injectez du fluide à une vitesse donnée, qui est par exemple un cosinus, l'équation étant non linéaire, elle va tout de suite créer un cosinus 2x, puis 3x, puis 5x, etc., etc. Et donc un gros tourbillon qui serait de taille 1, par l'équation, tout à coup, il va se décomposer en toute une hiérarchie de tourbillons de plus en plus petits, à mon avis, enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle petit ou gros, mais en tout cas qui oscillent de plus en plus fort. Et donc, quelque part, ils sont de plus en plus ramassés aussi, ces tourbillons.
Oui.
C'est ça la hiérarchie.
Alors là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en pleine Renaissance, au XVe siècle, en Italie, un bonhomme prénommé Léonard da Vinci, de la ville de Vinci, dessine donc des tourbillons, par exemple, qui sont à la sortie, quand le fluide laminaire du fleuve ou du ruisseau rencontre une pile de pompes, pof, derrière, voilà que le désordre commence. Et il résout, lui, dans son dessin, le fait que c'est de plus en plus petit.
Tout à fait, il avait... très bien compris ça. D'ailleurs, le mot turbulence vient de Da Vinci.
Hein, oui, qui a ça veut dire la foule hein, au départ.
Au départ, oui. Et, il appelait, c'était pour lui un écoulement tourbillonnaire. Il appelait ça. C'est lui qui a créé ce mot turbulence, je crois, pour les écoulements. Il avait exactement compris cette formation de tourbillons de plus en plus petits. Et qui était même, il avait même compris qu'ils étaient au bout d'un moment dissipés. Oui. Il écrit ça aussi dans un de ses textes. On a création de petits tourbillons et ils finissent par être dissipés. Par la viscosité.
Oui. C'est absolument magnifique, non? C'était
alors, ce qui est, bon,
là, il y a plusieurs commentaires quand même à faire. Parce
alors
que...
d'abord, c'est qu'il y a l'observation, la physique, et puis le raisonnement mathématique
et
qui
oui.
vient confirmer. Puis comme on est quand même à deux pas du pont Mirabeau,
oui,
on peut penser aussi, sous le pont Mirabeau, coule la Seine, parce qu'il se suffit de se mettre au bord de la Seine, justement derrière un pont, pour au moins observer une partie de ces phénomènes. Et je présume que certains des mathématiciens qui sont fascinés par ce genre de questions en mathématiques, le sont peut-être parce qu'ils se sont mis au bord d'un fleuve à un moment, ils ont regardé, ils se sont dit, il faut que je comprenne.
Je me permets de faire une toute petite incise aussi, puisque nous sommes sur France Culture, même si on parle des équations de Navier-Stokes, Paul Celan, poète d'expression allemande, juive, s'est suicidé en se jetant du pont Mirabeau. Voilà.
Ça, je savais pas.
Donc, et c'est à deux pas de la radio. Donc, pour revenir à nos équations... Donc, et aux tourbillons, et qui sont donc de plus en plus petits, et qui finissent par se dissiper. Quand on dit dissiper, je vous ai interrompu dans votre explication, continuez.
Oh, je laisse l'experte parler, la dissipation, c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi.
En fait, un mot sur la dissipation peut-être.
Oui,
donc
oui.
Cette équation de Navier-Stokes, c'était la première équation qui a été écrite pour décrire un fluide. La première, c'était due à D'Alembert et surtout Euler.
Oui.
C'était une équation non linéaire. Et il se trouve que donc Euler a écrit cette équation et D'Alembert a tout de suite remarqué qu'avec cette équation-là, si on mettait un oiseau dans un fluide vérifiant cette équation, il n'allait pas tenir, il n'y aurait pas de portance. Donc c'était un vrai problème et ils n'arrivaient pas à résoudre ce problème jusqu'à ce que Navier d'abord et puis ensuite toute une flopée de mathématiciens dont Stokes ensuite, ont pensé à rajouter un terme à l'équation qui évite ce problème de non-portance et qui est un terme de viscosité.
Et oui, voilà, c'est comme ça.
Donc la viscosité, c'est vraiment ce qui dit que les molécules de fluide en évoluant vont frotter les unes sur les autres, disons, et vont dissiper de l'énergie sous forme de chaleur. Et c'est cette même énergie, c'est cette même dissipation qui fait que les tourbillons vraiment trop petits ne vont pas tenir et vont être dissipés sous forme de chaleur.
C'est étonnant ce concept-là, hein, qu'on oppose au laminaire, hein, quand ça devient comme ça turbulent et que la viscosité joue un rôle absolument important, parce que pour certains corps, par exemple, avec un certain nombre de Raynaud, juste pour faire jouer de l'étonnement, le gaz de l'air, par exemple, eh bien, selon le corps qui y est, ça peut être quelque chose d'extraordinairement gluant. Donc c'est très relatif.
Bien sûr, oui.
Ça peut être un vrai miel qui vous empêche de bouger, alors que pour un autre corps, avec un nombre de Raynaud différent, peut-être...
Ça passerait tout seul
et il se ferait porter gentiment tout autour de la Terre. Est-ce que, c'est une question que je pose à l'un et à l'autre, parce que évidemment ceux qui travaillent en turbulence mobilisent beaucoup les ordinateurs, mobilisent aussi beaucoup des modèles théoriques. Ils se disputent beaucoup entre eux, parce que c'est très controversé, puisque c'est très difficile, donc il y a des écoles aussi. Ça vous apparaît comment, l'un et l'autre, quand on part de cette idée que c'est en définitive et toujours les mathématiques qui vont donner la raison des phénomènes, puisque, comme l'a dit le grand Galilée Galileo, la nature est écrite en langage mathématique. Oui. Face à ce problème, Martin Andler, tiens.
Par exemple, vous avez parlé d'ordinateur.
Oui.
Et ce que je comprends des travaux, des très nombreux travaux sur ordinateur qui consistent à calculer sur ordinateur les solutions de ces équations, c'est que savoir si les résultats obtenus par ordinateur sont justes est une question extrêmement complexe. Parce qu'on met dans l'ordinateur, mais comme les phénomènes justement sont extrêmement instables, mathématiquement instables, du coup le calcul lui-même devient instable.
Oui.
Et donc les résultats produits par l'ordinateur sont sujets à réflexion, contestation, les gens ne sont pas d'accord, oui ce calcul est juste, ce calcul est clairement faux, ce calcul est peut-être juste. Et donc on voit qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut tirer de, en l'occurrence, des ordinateurs. Et du coup, l'arbitre, c'est le raisonnement, et donc l'arbitre, c'est les mathématiques.
Oui.
Et donc, ça permet aussi de dissiper une illusion, c'est-à-dire, à l'heure de l'ordinateur, il n'y a plus besoin de mathématiques. Ben non, c'est extrêmement facile de faire des calculs faux sur ordinateur.
Oui.
Même si on ne s'est pas trompé dans le programme. On fait un calcul faux parce qu'il y a une difficulté intrinsèque qui fait que le résultat du calcul va être non conforme à la réalité physique.
Je suis d'accord. Surtout que la turbulence, c'est quelque chose de tridimensionnel. Et je crois que coder Navier-Stokes en trois dimensions, ça coûte très, très très cher. Et on a vraiment du mal à le faire.
Et quand on parle alors d'une dimension en 2D, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend en considération quoi?
Alors, de manière théorique, ce serait simplement un fluide qui serait plat, parfaitement plat.
D'accord.
Cela dit, ça a des applications pratiques.
Largeur-longueur, point.
Voilà, largeur-longueur, pas d'altitude, pas de hauteur.
Pas de volume, non.
Voilà. C'est beaucoup plus facile à résoudre. Les équations de Navier-Stokes sont résolues depuis le Ray, depuis les années 30, en dimension 2. On sait qu'il n'y a pas de catastrophe qui se passe. Et c'est important d'un point de vue des applications, en fait, parce que l'atmosphère, typiquement, certes, elle a un volume, mais elle est tellement plus étendue horizontalement que verticalement que les équations bidimensionnelles sont, en fait, de bons modèles pour l'atmosphère, même pour les océans à grande échelle. Donc c'est important d'étudier également des fluides bidimensionnels, c'est-à-dire avec, en tout cas, peu profond. C'est quelque chose qui se fait beaucoup.
Alors moi, je vous propose, puisque une des vertus ou une des possibilités techniques de la popularisation scientifique, c'est la redondance, je vais quand même recommencer avec, en particulier, le nombre de Raynaud en me disant quatre questions. Juste comme ça, ça fait un petit peu exercice écrit. Sortez vos cahiers, nous allons faire l'exercice suivant avec les quatre questions. La vitesse du courant augmente pour savoir quand la turbulence augmente-t-elle. La vitesse du courant augmente, la taille d'un objet rencontré dans le flot augmente, la densité du liquide s'écoule augmente, la viscosité du flux augmente. Réponse à la première question, la turbulence augmente avec la vitesse, 2 points, le drapeau bat plus fort dans la tempête que dans la brise. Commentaire ?
Oui, le nombre de Raynaud, c'est bien la vitesse divisée par la viscosité.
La turbulence augmente quand la dimension de l'obstacle augmente. Pour l'imager, le cargo fait plus de remous qu'un petit canot pneumatique.
Oui. Heureusement qu'il y a des exemples quand même derrière pour nous aider.
La turbulence augmente quand la densité du fluide augmente. Une des plus grandes densités signifiant davantage de particules se bousculant entre elles, l'interaction ne peut qu'augmenter.
Voilà, c'est un peu vache comme question, parce qu'on a pris une densité constante jusqu'ici.
Et hein. Oui, oui, c'est vrai.
Donc ça va être compliqué, mais on y croit aussi.
Bon, allez, la turbulence décroît quand la viscosité augmente.
Oui, absolument. Bon.
Est-ce que, si on fait de la sociologie des mathématiques, puisque vous êtes une population très très nombreuse maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de mathématiciens? Alors, je suis un peu embarrassé pour poser cette question, parce que, ne serait-ce qu'en mathématiques, il y a plusieurs manières d'aborder, avec des spécialités différentes, ceux qui travaillent avec des considérations de dimensionnalité, avec, je dis ça en étant... d'une parfaite innocence et d'une très très grande ignorance. Mais quelle est la population mathématicienne mobilisée par ça? Ça vient plutôt des algébristes, strictement, ça vient...
Non, ça c'est pas les algébristes, ça c'est vraiment les spécialistes des équations en dérivées partielles, les gens qui font de la physique mathématique.
Mais il y a de l'analyse là-dedans.
Oui, c'est de l'analyse. Donc, en gros, en France, il y a à peu près 4000, entre 3500 et 4000 mathématiciens qui font de la recherche académique.
Oui.
À peu près la moitié sont plutôt des mathématiciens appliqués. Et je pense qu'il y en... Il y en a peut-être quelques centaines qui travaillent sur des questions qui sont en lien avec la mécanique des fluides, avec, évidemment, mais la France, c'est une grande puissance mathématique, c'est quand même un petit pays, donc il faut multiplier au moins par 10.
Oui, oui.
Alors maintenant, évidemment, parmi tous ces mathématiciens, il y en a qui ont des contributions fondamentales et d'autres qui ont des contributions moins importantes, mais ça, c'est le jeu normal.
Du développement d'une discipline.
Du développement d'une discipline.
Oui. Isabelle Galaguin, votre sentiment?
Oui, je suis assez d'accord. La turbulence développée dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose de très très difficile. Donc je pense qu'il y a en fait finalement assez peu de mathématiciens qui ont des contributions dans le domaine. Vraiment très peu, parce que tout ce qu'on a raconté jusqu'ici, ce ne sont pas des théorèmes de mathématiques. Hein. Quand on dit Kolmogorov a compris telle et telle chose, en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a formulé des hypothèses à partir desquelles il arrive à déduire un certain nombre de propriétés qui ont l'air d'être observées dans la turbulence. Mais ce ne sont pas des théorèmes. Et lui-même avait toujours douté qu'un jour il y aurait un théorème mathématique derrière tout ça. Donc les mathématiciens essaient quand même d'en déduire des théorèmes, donc forcément c'est beaucoup moins élaboré que ce qu'on pourrait espérer en physique. Et donc la communauté de mathématiciens qui travaillent vraiment sur la turbulence est relativement réduite. Celle qui travaille sur la mécanique des fluides, pour le coup, je suis assez d'accord avec les chiffres de Martin.
Oui. Ouais. Alors quelqu'un qui est spécialiste de la turbulence, comme Marie Farge par exemple, a organisé justement une rencontre avec des versions différentes et de mathématiciens et surtout de physiciens de mécanique des fluides. Et un des points, c'était de dire arrêtez de nous embêter avec des modèles qui sont mal fichus, qui sont sans imagination, et de jouer avec vos petits joujoux informatiques. Maintenant que vous avez une puissance calculatoire absolument phénoménale. Et il y a encore, évidemment, les machines ne peuvent pas tout, il faut continuer à travailler, c'est bien ça.
Oui, tout à fait.
Alors j'en profite, c'est pratiquement, on s'achemine lentement vers nos dernières questions. Dans un entretien que vous avez donné, que j'ai vu, qui date de 2009, Isabelle Galaguer, vous dites, c'est curieux, mais moi je ne vois pas de grande différence entre les maths fondamentales et les maths appliquées.
Disons que c'est tout à fait différent de la turbulence. Il n'y a pas de transition brutale entre le fondamental et l'appliqué. C'est une espèce de continuum.
Oui.
Et suivant la façon dont on aborde les problèmes, on peut avoir une façon plus appliquée, plus fondamentale. Mais il n'y a pas vraiment de distinction, à mon avis, nette. Il n'y a pas de frontière nette entre les deux.
En général ou pour cet objet mathématique particulier?
En général,
ou ce
à mon avis. Ça dépend de quel point de vue on prend pour aborder les problèmes. Certains problèmes sont clairement de nature fondamentale. Mais même un problème qui a l'air complètement sans application possible peut finir par en avoir.
Certes.
Ça dépend complètement de la façon dont on le conçoit.
Votre sentiment, Martin Andler, sur cette question?
Oui, enfin, d'un point de vue sociologique ou sociologie des sciences, peut-être ce qui est frappant dans l'évolution de l'école mathématique française dans les 30 dernières années, c'est justement le développement d'une très forte école de mathématiques appliquées qui est en lien très fort avec l'école plus traditionnelle de mathématiques pures et qui présente maintenant un paysage beaucoup plus équilibré du rapport entre mathématiques pures et mathématiques appliquées en France par rapport à la situation des années 50 ou des années 60.
En tout cas, espérons que ça ne soit pas comme dans la biologie appliquée où toute la recherche fondamentale et donc dite académique soit absolument commandée par l'aval. Puisque là, ça veut dire une espèce de dévoiement, enfin c'est mon sentiment personnel, mais c'est une sorte de dévoiement qui viendrait de l'industrie. Donc je serais peut-être en opposition par rapport à certains cocoricos de certains responsables de la science française qui se ravissent de voir la science appliquée se développer. Disons que c'est très beau, la recherche académique qui nous montre des aspects du monde pas connus. Non, vous avez partagé. On est né un peu à la Leonardo da Vinci. Mais je vous remercie en tout cas beaucoup, Isabelle Gallinger. Merci. Réussite pour votre conférence, Martin Anglais.
Donc, mercredi, BNF, site François Mitterrand, 18h30. Arrivé un peu en avance, je pense qu'on aura beaucoup de monde. C'est un très beau sujet.
C'est vrai, à chaque fois vous constatez qu'il y a beaucoup de monde.
Mais venez quand même, il y a de la place pour tout le monde.
Oui, absolument. C'était Continent Science, donc merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aujourd'hui, aux manettes, Anthony Thomasson, pour la documentation Henri Leblanc, à la réalisation d'Annie Journaud, Stéphane Delis-Georges. Continent Science est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.